Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément politique, puisque tu t'engages pour l'emploi, pour l'économie locale, parce que tu portes un message, tu dois guider des troupes, tu es multicasquette, tu dois tout savoir, tout être capable de faire, et en même temps savoir déléguer, donc ça peut être similaire d'une certaine manière.
Bonjour, je suis Thibaut Lamarck, le fondateur et président de Castalie, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, au micro de La Relève, je reçois Clara Duchalet, 29 ans, cofondatrice de Vépluche. Cette start-up lancée en 2019 a pour mission de collecter à vélo les déchets organiques afin de les transformer en terreau écologique et local. Rien ne se perd, tout se transforme, c'est ce que Clara va nous démontrer aujourd'hui. Salut Clara.
Bonjour Thibaut.
Est-ce que tu peux nous parler de toi, où est-ce que tu as grandi et qu'est-ce qui a fait que tu es devenue Clara aujourd'hui?
D'abord, merci beaucoup pour ton invitation. Entre voisins boulonnais, c'est super, super sympa. Et ça me fait particulièrement plaisir parce que je connais Castalie depuis la création de Vépluche. Je t'avais vu chez une cliente, enfin pas toi, mais la bouteille. Et donc, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui.
C'était quel client ?
C'était malheureusement une cliente qui a fermé. C'était le Kitchen Studio,
Kitchen Studio.
À côté de Michel et Augustin, ouais. Qui m'avaient fait tes louanges à l'époque.
Jessica Nazarian.
Exactement, qui était top. Du coup, la question, c'était qui je suis, c'est
ça. Où est-ce que tu as grandi?
Moi, j'ai grandi à Montauban, et ouais. Plus précisément dans un village à côté de Montauban qui s'appelle La Bastide-Saint-Pierre. 3000 habitants, avec beaucoup de jardins, beaucoup d'espaces, de nature, beaucoup de voitures aussi. C'est comme ça quand on n'habite pas dans les grandes villes. Et je suis arrivée à Paris, j'avais 18 ans, pour faire mes études à Sciences Po. Donc ça, c'était pour le début.
Pourquoi Sciences Po?
Pourquoi Sciences Po? Moi, je suis une personne très littéraire. À l'origine, j'aime beaucoup, beaucoup lire. Au tout début, je voulais être écrivain. C'est quand on était au petit, j'avais réécrit le chapeau rouge. Mais Sciences Po, c'était pour faire de la politique, tout simplement. Je me disais que en faisant Sciences Po, on avait une chance, à très grande échelle, potentiellement, de changer le monde. Et donc, en fait, l'idée que j'avais en tête, mais sans la formuler de cette manière-là, c'était d'avoir un impact à l'échelle de la société, à l'échelle de l'environnement. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait quelque part monter très haut pour pouvoir y arriver. Mais c'était vraiment une vision pas simpliste, mais c'était ma vision de l'époque. Et après, j'ai pas mal changé, quand même.
Donc, pas de politique?
Pas de politique, ou plutôt, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément politique? Puisque tu t'engages pour l'emploi, pour l'économie locale, parce que tu portes un message, tu dois... guider des troupes, tu es multicasquette, tu dois tout savoir, tout être capable de faire, et en même temps savoir déléguer, donc ça peut être similaire d'une certaine manière.
Je suis bien d'accord avec toi. T'as des frères et sœurs, tu viens de quel milieu
J'ai deux petits frères,
ouais.
Donc je suis l'aînée, on a 3 ans et demi d'écart chacun,
okay.
Donc à la maison j'aimais bien être un peu autoritaire, tu vois, je les
menais
à la baguette.
Sœur.
Ouais, le syndrome de la fille aînée qui doit faire les choses très bien, parfaitement, bonne à l'école et tout. Et parmi mes frères, il y en a un qui travaille chez Vépluche aujourd'hui.
D'accord.
Qui est rentré chez nous en tant que livreur et qui a changé ensuite, qui a fait de la gestion de stock et tout. Bon, là, il a un autre projet, il part en Australie.
Ok.
Mais voilà, on est tous à Paris, tu vois. On a tous quitté le sud-ouest pour aller faire nos études
à Paris. La Bastide Saint-Pierre
exactement.
A perdu 3 habitants.
Ouais, 3 habitants merveilleux en plus, c'est vraiment dommage. Mais pour répondre aussi à ta question, mes parents, ils sont du milieu médical.
Ouais.
Mon père est médecin et ma mère est infirmière.
Mais cette sensibilité à l'environnement, est-ce que ça... Elle vient d'où?
D'où ça vient?
Ouais.
Clairement, ma mère.
Ouais.
Ouais, je pense, ma mère est très sensible à l'art en général, à la nature. Et c'est par son éducation qu'on a beaucoup été éveillés à la protection de l'environnement. Mais j'ai du mal à mettre une date, tu vois, ou un événement marquant. Pour moi, c'est assez diffus. C'était très clair que c'était elle qui nous guidait dans cette vision, ces valeurs-là. Maintenant, pour avoir des anecdotes précises, j'en ai pas tellement. Le compost, on l'a pas toujours fait à la maison. Quelque part, la vision qu'on peut avoir de l'écologie, elle est très liée aux habitudes. Et c'est pas parce qu'on n'a pas encore la bonne habitude qu'on n'a pas la vision écologique. Tu vois, c'est juste qu'à l'époque, tu mettais tous tes déchets à la poubelle. Bon, tu faisais le recyclage dans le bac jaune, mais les gens ne se posaient pas de questions. Enfin, en tout cas, mes parents ne se posaient pas de questions sur le compost. C'est venu assez tardivement. Je pense que j'avais à peu près 15 ans, tu vois. Alors qu'ils avaient un très grand jardin, tu aurais pu te dire qu'ils auraient pu faire le compost depuis des lustres. Mais non, c'est... Je ne sais pas exactement comment c'est venu, mais... Bon, en tout cas, je faisais le compost à la maison au bout d'un moment.
Comment tu démarres ton premier compost dans le jardin de tes parents? Tu fais un trou?
Ils avaient super mal fait le truc au début. On n'y connaissait vraiment rien. Ils ont coulé une chape de béton, tu vois, sur lequel ils ont construit le compost, donc en bois. Et donc, on y mettait les épluchures. Bon, on faisait quand même la technique des lasagnes, tu vois, avec des épluchures et du sec. Donc, des feuilles mortes ou un peu de carton. Mais comme c'était sur une chape de béton, il n'y avait pas de communication avec le sol. Du coup, la dégradation se faisait très mal. Donc, finalement, on a changé les techniques et ensuite.
C'est quoi tes premières expériences avant de monter Vépluche?
J'ai monté Vépluche, j'avais 25 ans.
Ouais.
Et j'ai fini mes études à 23 ans. Donc dans ce laps de temps, j'ai pas eu beaucoup d'expériences professionnelles, on va dire classiques, en entreprise. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Phoenix,
ouais,
qui m'a beaucoup inspirée
bien.
Pour la suite. C'était vraiment une très belle expérience à Toulouse, d'ailleurs. Et j'avais envie quelque part d'itérer autour des biodéchets. Et pour faire ça, je m'étais dit, il faut absolument faire une école de commerce. Parce que j'imaginais pas qu'on puisse créer une entreprise sans avoir fait une école de commerce. Donc j'ai postulé à une école de commerce et j'ai pas été prise. Et là, j'étais un peu vexée, parce que j'ai quand même toujours été la bonne élève. Et je me suis dit, mince alors. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais commencer à travailler dans le milieu de l'environnement, peu importe, je vais me débrouiller. Et de fil en aiguille, en faisant des recherches internet, je suis tombée sur le programme de Women for Climate, porté par le C40, qui, en gros, voulait créer une promotion de femmes, porteuses de messages autour de l'environnement, créatrices de solutions, leaders du climat. Et donc, j'ai envoyé le dossier de Vépluche, que j'avais monté pendant que j'étais étudiante. Et j'ai été prise sur ce programme, qui a fait que je suis aussi revenue à Paris. Et en même temps que je suivais ce programme de mentorat, donc c'est beaucoup d'ateliers, de séances avec un mentor, Ma mentor, c'était Karine Bidard, qui à l'époque était co-directrice générale de Paris Senco, qui depuis a rejoint l'Agence parisienne du climat. Et Karine m'a énormément ouvert de portes et ouvert les yeux aussi sur certaines tendances de fond au niveau des collectivités. Donc c'était super intéressant. Et pour finir, juste avant Vépluche, j'étais en CDD au ministère de l'écologie pour préparer la COP23. Ça a été un passage éclair, mais ça a été super intéressant là aussi. Et après, je me suis arrêtée de force, c'était un CDD, pour me consacrer à temps plein à Vépluche. Et donc ça, c'était début 2018.
Le projet Vépluche, finalement, il était un peu en fond, en toile de fond. Tu l'avais déjà préparé pendant tes études?
Oui, en fait, le processus a été long. Tu vois, j'ai pas toujours voulu créer une boîte. Ça faisait pas partie des métiers de ma famille. C'est plutôt donc des gens du médical dans la famille. Mais en fait, au fur et à mesure de mes études, j'essayais de voir où est-ce que je pouvais être la plus utile. Est-ce que c'était dans le privé ou dans le public? Bon, c'était un peu binaire comme raisonnement. Et j'arrivais pas à avoir de réponse. J'avais fait des stages dans le privé, dans le public, et ça m'aidait pas à avancer. Et il y a un moment donné, je saurais plus te dire comment, mais je suis tombée sur le concept de social business, d'entrepreneuriat social, qui allie à la fois le côté business, monter un modèle solide, économique, qui joue avec les règles du capitalisme, mais qui a envie d'avoir un impact positif avant tout. Donc là, je me suis dit, mais tiens, les planètes sont alignées, ça y est, ça me fait un tilt. Et j'ai eu envie d'avancer dans cette voie-là. Mais ça restait encore flou, jusqu'à suivre ce cours de Sciences Po, d'entrepreneuriat social, où là, on avait 3 mois pour créer une boîte, concrètement. J'étais en Master 2, donc j'avais 22 ans, je crois, 21 ans.
Donc c'est pendant ce Master?
Ouais, c'est ça. C'était la dernière année de Master.
Projet, en fait, c'est ton projet de Master.
C'est ça. C'était le dernier semestre de la dernière année de master où on a fait une espèce d'énorme workshop et en 3 mois, il fallait qu'on crée une boîte à impact.
Et est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu l'idée?
Je me souviens qu'au début, on voulait partir sur le plastique. On voulait recycler du plastique pour faire du matériel scolaire. Et je me souviens avoir pensé que c'était hyper compliqué, que c'était pas très naturel, c'était très chimiste, tu vois, de parler de molécules, etc. Et je sais plus exactement comment c'est arrivé, mais il y a un moment donné où je me suis dit, mais j'ai envie de quelque chose de plus terre à terre, tu vois, de plus concret. Et du coup, on a switché vers les biodéchets. Mais au début, je voulais le faire pour le particulier. Je pensais que les gens pourraient amener leurs biodéchets chez le magasin le plus proche où ils font leurs courses et qu'ensuite, nous, on pourrait collecter ces bornes relais. Mais à l'époque, c'était compliqué. Il y avait une question d'espace public. Les magasins ne voulaient pas spécialement faire ça. Donc, bon, on a pivoté déjà à cette époque-là. Alors que c'était un projet sur le papier, on s'est plutôt dirigé vers les professionnels de la restauration.
Donc là, aujourd'hui, tu travailles avec les restaurants,
c'est
les hôtels avec...
Alors, V+ s'adresse à tous les professionnels qui produisent des biodéchets. On est en particulier spécialisé dans le micro-gisement, donc les petites quantités, parce qu'on se déplace à vélo-cargo. Et donc, c'est plus facile pour nous que pour un gros camion ben d'aller chercher de la petite quantité. On est plus agile. Donc, on travaille avec la restauration commerciale traditionnelle. Hein, c'est la brasserie, le bistrot d'à côté. Et depuis début 2021, on travaille aussi avec les fleuristes qui produisent pas mal de biodéchets. On le sait pas forcément, mais beaucoup de déchets sont générés chez les fleuristes, les déchets de branches, les fleurs fanées. Et donc depuis peu, on collecte aussi ces déchets-là.
Donc les hôtels, les restaurants.
Exactement.
Où est-ce qu'il y a
les épiceries, les supermarchés.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sources? C'est quoi les gros les endroits magiques où on peut récolter du...
Il pourrait y avoir les écoles.
Ouais.
On a quelques pistes avec des lycées. Évidemment, après, on pense aux immeubles, aux particuliers. Si chacun avait sa colonne de biodéchets qu'on puisse collecter, ce serait une autre piste. Mais nous, on préfère quand même s'adresser aux professionnels. Les entreprises sont aussi des cibles. Parce qu'il y a le marc de café, parce qu'il y a aussi, quand on est un certain nombre de collaborateurs, les gamelles qu'on a le midi. Il y a ceux qui ont des restaurants d'entreprise où on peut collecter les biodéchets. Donc le domaine est vaste. On va pas s'ennuyer.
Vous avez deux régions, Paris et puis Lyon.
Alors oui, et même quatre maintenant. On est à Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse. À Paris, on fait la complète. À la fois, on adresse la restauration et on adresse aussi les fleuristes, les entreprises, tout le panel, on va dire, du biodéchet. À Lyon, Bordeaux et Toulouse, on est sur un système différent. On a commencé avec les fleuristes. Donc à Lyon, par exemple, on y est allé et on a commencé à commercialiser le terreau pour voir si l'appétence pour le produit était la même qu'à Paris, ce qui s'est vérifié. On a eu les mêmes taux de conversion. Et du coup, ensuite, on s'est mis à développer le service de collecte des déchets verts. Et donc pour l'instant, on n'est que sur un modèle fleuriste à Lyon et on l'a développé à Bordeaux et à Toulouse. Mais l'idée, c'est ensuite de passer à l'échelle et d'intégrer la partie restauration dans ces villes-là et dans les autres villes de France.
Une fois que tu es venu collecter le déchet, qu'est-ce que tu en fais?
Alors, on centralise tout sur notre site de Boulogne. Et ensuite, tout part à Châtillon, où on a notre usine de compostage électromécanique. Donc là-bas, on a 500 mètres carrés avec pas mal de machines. Et on va transformer le déchet organique en compost. Donc ça prend un certain temps. On a un broyeur, enfin on a plusieurs styles de machines. Mais qui font qu'au bout de quelques semaines, on a un compost mature. C'est plutôt quelques mois quand même. Ça prend du temps.
Ça prend du temps?
Ouais.
Et ça prend de la place?
Est-ce que ça prend de la place? Oui, ça prend quand même de la place. Faut pas exagérer. À la fois les contenants de biodéchets, mais aussi le compost en maturation, tout ça nécessite un peu d'espace. Mais en étant à Châtillon, on a trouvé un bon compromis entre être proche de la ville et être suffisamment éloigné pour avoir de l'espace.
Est-ce que ça chauffe l'hiver? Il y a besoin de se chauffer ou ça, le compost permet de chauffer l'entrepôt?
Alors l'entrepôt de base n'est pas chauffé, mais effectivement si on met la main dans le compost, on peut un peu se réchauffer. Mais aujourd'hui nous on n'a pas de moyen d'extraire la chaleur du compost pour chauffer, mais on y a déjà pensé, ce serait bien.
C'est quoi votre modèle économique? Donc vous venez récupérer les déchets? Je vous paye? Enfin, là, si, pour Castalie, est-ce qu'on peut mettre en place un contrat ou...
Alors, en fait, ça dépend de quel type de structure on parle. La restauration, par exemple, c'est un modèle spécifique d'économie circulaire où on va collecter gratuitement les biodéchets si, en contrepartie, les restaurants nous achètent des fruits, des légumes et des produits alimentaires issus de petits producteurs et de grossistes. Donc là, ça nous permet de dégager une marge sur les fruits et légumes. Nous, on n'est pas producteurs de fruits et légumes. Donc le modèle économique pour la restauration, c'est la marge de fruits et légumes qui paye la collecte de biodéchets et une partie de la valorisation. Quant aux fleuristes, le modèle économique, c'est la revente du terreau que eux-mêmes vont revendre à leurs clients et aussi l'abonnement à la collecte des déchets verts, qui est payant. Pour les entreprises, c'est aussi des systèmes d'abonnement. C'est une prestation de service, on se déplace jusque dans tes locaux pour venir collecter une certaine quantité de matière. Et donc tu payes en fonction du nombre de fois par semaine où tu souhaites que l'on passe, plus la quantité de déchets que l'on aura récupérés. Et tous les mois, on t'offre du terreau.
Mais merci en tout cas, tu es venu avec 5 litres de terreau qui sont sur mon bureau. Je te remercie.
Ben avec plaisir.
On va faire bon usage. Tu as levé des fonds pour démarrer ?
Pour démarrer, non. On a démarré en fonds propres.
Ouais.
Le cas particulier, c'est que j'ai monté la boîte avec un fonds d'investissement familial qui s'appelle Quinta Investments, qui est du 92 aussi. On est très, très haut de scène. Et donc, ce fonds familial, il est à la fois opérationnel et investisseur. Donc, avec mon associé, on prend les décisions à deux, on est très, très complémentaires. Mais c'est vrai que ça a quand même permis de démarrer tout de suite en recrutant des salariés, en pouvant investir dans les machines de compostage, dans les véhicules. Donc ça, c'était de 2018 à 2021. Donc il a fallu aussi soutenir l'activité pendant le Covid, où ça a ralenti. Donc c'était des périodes assez, assez intenses. Et en 2021, on a fait notre première levée de fonds dans le but d'accélérer le développement sur Paris, notamment. Et donc là, en 2021, on a fait une levée en seed, donc une première levée, de 500 000 euros.
Et vous êtes rentable ?
Pas encore.
Pas encore.
On y travaille.
Donc là, les 500 000 euros, ils servent à quoi ?
Alors, ils nous ont permis de recruter plus de personnes, notamment des personnes qui nous permettent de faire monter la boîte en compétences. Donc on a recruté un responsable logistique, on a recruté plus de monde en général pour opérer la logistique. On a investi dans des fonctions support et dans les commerciaux.
Donc ça représente combien de personnes aujourd'hui ?
Là aujourd'hui on est 12 dans la société.
Et il y a combien de vélos ?
Combien de vélos ? On est à 5 vélos cargo, ouais. Et 2 camionnettes électriques. On ne peut pas tout faire à vélo quand même. On y travaille, mais on ne peut pas tout faire à vélo cargo encore.
Est-ce que tu sens que les choses évoluent dans le bon sens sur le biodéchet ? Parce que qu'est-ce qui se passait avant quand un restaurant vidait ses poubelles, il mettait tout dans la poubelle grise et ça partait à l'incinération ?
Oui, sans état d'âme. Non, avec beaucoup d'état d'âme. Mon sentiment, c'est que les choses évoluent dans le bon sens sur les biodéchets. En effet, le grand public drive tout le secteur à ce niveau-là. Plus les gens connaîtront l'impact du biodéchet et le fait de le valoriser, plus ça va sensibiliser les restaurants, puisque le restaurant est au service de sa clientèle. Donc c'est sûr que si ses clients s'en fichent complètement, et que lui-même s'en fiche complètement, un restaurateur n'aura pas beaucoup de motivation à se lancer. Mais comme le sujet est de plus en plus public, de plus en plus débattu, ça joue en notre faveur. C'est pas pour ça qu'on a créé Vépluche, mais ça nous aide quand même, parce que les collectivités font aussi un gros travail de fond sur la sensibilisation à qu'est-ce que le biodéchet, l'installation de composteurs dans les quartiers, donc ça va quand même mieux. Mais avant, ce qui se passait, ce qui se passe toujours pour la plupart des restaurants, hein, malheureusement, tout le monde ne tripe encore les biodéchets, mais c'est effectivement de les mettre dans la poubelle à ordures ménagères, la poubelle noire. Et ces poubelles-là, elles ont deux voies. Soit elles partent en incinération, on va les cramer, soit elles partent en enfouissement, donc on va les enterrer. Dans le premier cas, ça crée plutôt des émissions de gaz à effet de serre, parce que cramer une poubelle quand il y a du plastique dedans, du biodéchet mélangé, etc., le résultat n'est pas incroyable. Et quand on va enfouir les biodéchets, ça va créer du méthane. Parce que du coup, tu mets sous le sol, il n'y a pas de traitement qui est fait, et donc la matière fermente, et ça va polluer les nappes phréatiques par le bas, et ça va polluer l'atmosphère par le haut avec le méthane.
Dans la poubelle d'un restaurant, le déchet organique, c'est quel pourcentage ?
C'est une plus grosse fraction chez les particuliers. Les stats au niveau national et même européen disent qu'il y a à peu près 30% des déchets des poubelles qui sont constitués de matière organique. Mais dans la poubelle d'un restaurateur, c'est plutôt 50%.
Donc ça diminue quand même les poubelles.
En fait, on les
transvase. Tu divises par deux le.
Tu vois, au lieu de le refaire mettre dans leur bac noir, ils le mettent dans nos petites caisses bleues. Et du coup, quelque part, il y a la même quantité de déchets, peut-être un peu moins parce qu'ils voient ce qu'ils jettent, donc mécaniquement, ils vont limiter leur gaspillage alimentaire, mais pour eux, c'est juste bouger le déchet d'un endroit à un autre.
Ça t'a amené beaucoup de choses, Women for Climate, ou pas ?
Ça m'a donné l'étincelle du démarrage.
T'es aussi membre du réseau Entreprendre ?
Ouais. Alors moi, par contre, je suis membre du réseau 75,
ouais.
Puisque techniquement, on ne veut plus chez immatriculé à Paris.
Ok.
Et cette semaine, j'ai fait mon premier comité d'engagement. Donc j'ai été à la place des examinateurs. Non, c'est pas des examinateurs, c'est beaucoup plus bienveillant que ça. Mais oui, j'aime beaucoup le réseau. Women for Climate, d'un côté, m'a apporté beaucoup de réseau, de confiance. On nous a appris à pitcher. Le réseau Entreprendre, c'était... on le répète souvent, j'entends toujours les mêmes mots dans la bouche des autres entrepreneurs, mais c'est parce que c'est vrai. C'est beaucoup de bienveillance. On a l'impression de rentrer dans une grande famille et que l'équipe du réseau de Paris est hyper impliquée pour te connecter avec les bonnes personnes, pour faire en sorte que ton parcours entrepreneurial soit le plus fluide possible, qu'il soit positif ou moins positif, même quand il y a des difficultés, le réseau laisse pas tomber. Au contraire, c'est vraiment une aide précieuse.
Et puis, ils prêtent de l'argent.
Oui, moi, ils m'ont prêté, c'est vrai. J'ai un prêt d'honneur que je commence à rembourser maintenant.
T'es accompagnée par Sista aussi ?
Oui. Ouais, j'ai rejoint la toute première promo du réseau Sista.
Ok.
Un peu comme Women for Climate, c'était la promo bêta. On était la promo test et ensuite, ça a fonctionné. Du coup, j'ai continué à rester dans le réseau.
Et donc là, tu accompagnes des entrepreneuses ou tu...
Sista, c'est un peu différent du réseau Entreprendre. L'objectif, c'est d'aider au financement des entreprises portées par des femmes. Donc, il n'y a pas de système, en tout cas pas pour l'instant, de mentor, mentoré. C'est plutôt une grande communauté où on se partage beaucoup d'astuces, de contacts. On fait des ateliers, il y a des webinaires, mais il n'y a pas encore ce système de mentorat.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer ?
Mais figure-toi que mon mari se lance dans ouais. L'entrepreneuriat.
Qu'est-ce que tu lui as dit alors ?
Donc le premier conseil que je lui ai donné il y a quelques mois déjà, c'est d'aller à la CCI pour démarrer. Chose que je n'ai pas faite moi au début. C'est pour moi la première étape pour savoir quel est le panel des aides, des possibilités en fonction du secteur dans lequel tu veux te lancer. En tout cas, pour le démarrage du démarrage, tu vois. Je trouve que la CCI fait des formations, accompagne. Donc ça, c'est un premier conseil. Et après, le deuxième, c'est... Mais celui-là, il le suit pas trop. Mais c'est de parler le plus possible de son projet. D'essayer de rencontrer un maximum de personnes. Parce que moi, je pense sincèrement que c'est en faisant rebondir l'idée le plus possible sur une variété, une diversité de personnes que tu vas peut-être avoir la chance de rencontrer... ton futur associé ou peut-être ton premier client.
Du coup, j'inverserai peut-être les deux conseils. Alors, je mettrai aller challenger ton idée avec d'entrepreneurs et puis pour après aller chercher des subs une fois que t'as bien calé ton...
Ouais, mais la CCI, c'est pas que des subventions. Ils peuvent t'aider à créer tes statuts. Par exemple, tu peux suivre des formations sur comment créer ton logo.
Okay.
Donc, moi, je les paralléliserai.
Qu'est-ce qu'il va faire ton mari ?
Il lance une boîte dans la data acquisition.
Ouais.
Donc c'est comment utiliser les données qui nous entourent à bon escient et savoir les transformer pour améliorer la performance des entreprises, au sens large.
Pour les particuliers, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour limiter le volume de déchets organiques ou pour participer à un projet de compostage ? Comment on fait ?
Alors en fonction de si tu habites en ville ou à la campagne, déjà c'est pas les mêmes conseils. Si les gens qui nous écoutent habitent en ville... C'est compliqué parce qu'il y a plein de solutions, mais souvent c'est bouché. Le panel, c'est le suivant. Tu peux avoir un lombricompost. Donc c'est gratuit. La mairie de Paris a vachement bossé là-dessus. Ils te donnent des lombricomposts. Il suffit que tu ailles dans ta mairie de quartier pour le faire. Il n'y a pas que Paris d'ailleurs. Toulouse, Bordeaux, Lyon. Beaucoup donnent des lombricomposts ou des bacs à compost pour le jardin, pour les gens qui habitent plutôt en milieu rural. Donc ça te permet d'éliminer une partie de tes déchets à la maison, notamment les déchets végétaux. Parce que les lombrics, ils n'aiment pas la viande, ils sont végétariens. Et ensuite, il y a une autre technique qui est le compostage de quartier. Pareil, là, on y apporte le végétal parce que c'est en ville, sur l'espace public, on veut éviter qu'il y ait des nuisibles. Le problème que moi, je vois, c'est que les composteurs de quartier sont souvent pleins. Il y a un vrai succès de ces dispositifs. Et après, il peut y avoir des bornes sur l'espace public, mais ça, il n'y en a pas encore beaucoup. Donc, bon, ce n'est pas la solution la plus...
Mais sur du compost industriel, là, comme dans ton usine, tu peux tout mettre dedans, c'est tous les déchets organiques.
Oui. C'est ça le gros avantage d'avoir des composteurs électromécaniques ou d'être professionnel en général, c'est qu'on a un système de traitement des déchets en milieu fermé. Donc en fait, nous, on a un discours qui est très simple vis-à-vis de nos clients, c'est vous nous mettez tout l'alimentaire, que ce soit des peaux d'orange, des peaux de banane, des os de viande, des arêtes de poisson, enfin, on peut absolument tout prendre. Le marc de café, les coquilles d'œufs, ce qui permet quand même d'avoir un discours simple et du coup d'avoir un meilleur impact. Mais j'aimerais bien qu'on puisse proposer une solution pour les particuliers, mais la difficulté pour faire ça, elle est logistique.
Elle est logistique parce que c'est plein de tout petits gisements. Il faut avoir un Veolia ou un Suez qui collecte.
Ouais, mais ça va arriver d'ici quelques années. C'est aussi pour ça que les gens comme Vépluche, les structures comme Vépluche ne développent pas forcément de solutions pour les particuliers maintenant, parce que d'ici 2025, en théorie, toutes les collectivités devront proposer l'équivalent du bac jaune, mais version biodéchets. Donc on n'a pas trop d'intérêt quelque part à créer une solution de toutes pièces alors que la collectivité va la mettre en place et va faire aussi de la délégation de services publics auprès d'acteurs privés. Donc ça va arriver tôt ou tard.
Donc là, c'est déjà inscrit dans la loi ?
Oui.
La date, c'est ?
Fin 2024.
Fin 2024, donc ça va arriver vite.
C'est imminent. S'il n'y a pas des retards, parce qu'il y a le Covid ou quoi... Non. C'est même un règlement européen qui est appliqué dans tous les pays. Donc, il y a de l'espoir.
C'est qui les acteurs ou les actrices de l'environnement qui t'inspirent ?
Alors, évidemment, les premiers auxquels je pense, c'est Phoenix.
Ouais.
Pour moi... Jean Moreau, Alexis Campionnet, c'est des personnes hyper engagées, hyper compétentes, et je suis vraiment admirative de ce qu'ils arrivent à faire avec Phoenix, de voir à quel point ça s'est développé, que ça s'est structuré. Je suis vraiment baba. Donc il y a Phoenix, j'admire beaucoup Écotable aussi. Je sais pas si t'as déjà fait un podcast avec elle.
Enfin, de podcast encore, mais on les connaît.
Elle
bien.
A son propre podcast, donc peut-être que. Mais Fanny, ouais, elle faisait partie de ma promo de Women for Climate, et je trouve que, pareil, avec Écotable, elle a créé une très belle identité, une vraie communauté de restaurateurs engagés à l'échelle de la France. Je trouve que ça a super bien évolué depuis Women for Climate, donc pareil, beaucoup d'admiration. Et un petit troisième pour la route, Carriole. Carriole, je trouve que c'est top ce qu'ils font. Les remorques, je sais pas comment les qualifier d'ailleurs, les remorques intelligentes qui te permettent de soulever ou de tirer avec ton vélo plusieurs centaines de kilos mais sans faire d'effort. Je trouve que c'est un acteur de la cyclo-logistique qui est très intéressant, qui est original et qui est pareil, qui a bien réussi à développer son business. Donc c'est vraiment des super sources d'inspiration.
C'est quoi une journée dans la vie de Clara ?
Moi, j'ai une routine du soir déjà, tu vois, où je lis toujours avant de dormir pour progressivement déconnecter le cerveau.
C'est quoi ton bouquin du moment ?
Là, j'ai commencé Le Joueur de Dostoïevski. Bon, je suis aux premières pages, hein, donc on y va tranquille. Mais à côté, il y a Mission Blablacar, tu vois, de Frédéric Mazella. Donc ouais, non, moi, je commence pas mes journées très tôt. En général, j'arrive au bureau, il est 9h30. Je peux finir des fois très tard, mais c'est pas le but non plus. J'aime bien avoir un rythme, disons, le moins tardif possible, parce que ça peut vite partir en escalade après avec la pression. Mais ouais, écoute, tous les débuts de semaine, c'est des réunions d'équipe, avec les commerciaux, avec le responsable logistique, avec mon associé. On fait le point sur tous les chantiers en cours, sur les objectifs qu'on s'est fixés. J'essaye de me réserver des journées thématiques. Tu vois, le mardi, c'est ma journée de télétravail. Donc là, en général, je fais tout ce qui est marketing, mise à jour du site web. C'est moi qui m'occupe de tout le marketing. Donc c'est le moment où je suis un peu posée, sans bruit. Parasite. Donc marketing. Le mercredi, je fais plutôt du RH. Je fais tous mes points en tête à tête. Je vois chaque personne de l'équipe pendant une demi-heure pour faire un point. Ouais, donc le point, c'est la journée administrative, comptable, toutes les factures fournisseurs, tout ça, tout ça. Et après, le jeudi, vendredi, c'est plutôt freestyle, ça dépend des moments. Ça peut être du commercial, travailler sur des plans financiers, prendre le pouls auprès des clients, réfléchir à des nouvelles offres, à des améliorations logistiques, une visite de Châtillon, c'est du site de compostage, c'est hyper varié.
Comment tu fais pour garder un équilibre vie pro, vie perso ?
J'ai mon mari qui m'aide beaucoup. à relativiser, à lâcher prise. La lecture. Beaucoup la lecture. Et la famille. Faut pas oublier, la famille et les amis. Et par contre, j'aime bien déconnecter. Tu vois, quand je suis en vacances, je suis tout à fait capable de laisser le téléphone portable en mode avion plusieurs jours d'affilée. Et je suis en mode advienne que pourra, personne ne doit m'embêter. Ouais, la déconnexion totale, ça, je trouve que ça aide beaucoup.
Bravo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite hein?
On peut me souhaiter que les restaurateurs, les fleuristes soient de plus en plus engagés et réceptifs à notre discours et que ce soit en eux que naisse l'envie de valoriser leurs biodéchets. Ouais, que la prise de conscience soit de plus en plus globale, parce que chaque geste individuel fait la différence finalement. On a du mal à le voir, hein, ça, quand on est tout seul chez soi, mais ça part vraiment, je trouve, enfin, en tout cas c'est ma conviction, des actions individuelles pour influencer sur le collectif. Donc on peut me souhaiter que du succès pour Vépluche, hein. C'est ce qui m'anime.
Bah, longue vie et beaucoup de succès à toi et à Vépluche.
Merci beaucoup, et pareil à Castalie. Hein.
Merci Clara. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcasts. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.